Donc le point de départ de cette intervention est un constat qui peut paraître surprenant, à savoir que le XVe siècle italien, riche d'une centaine de sculpteurs, parmi lesquels, bon, j'ai noté les plus illustres, Ghiberti, Donatello, Michelozzo, Andrea del Verrocchio, ou toute une dynastie, la dynastie della Robbia, et d'un magnifique théoricien qui est Léon Battiste Alberti, qui publie son De Statua, n'a pourtant produit que trois statues équestres de bronze. Celle du duc Nicolas III d'Este, érigée en 1451 à Ferrare et réalisée avec la contribution justement d'Alberti, par deux sculpteurs, Antonio Di Cristoforo et Niccolò Baroncelli, lequel Niccolò Baroncelli fut tout de suite surnommé Niccolò del Cavallo, puisqu'il ne s'était occupé que du cheval. La statue équestre d'Erasmo da Narni, capitaine de mercenaires connu sous le nom du Gatta Melata, réalisée par Donatello entre 1446 et 1450, qui est à Padoue. Et la troisième, à Venise, le monument à la gloire du condottiere Bartolomeo Colleoni, auquel travailla Andrea del Verrocchio entre 1480 et 1488. Alors, cette première liste de trois statues est à nuancer tout de suite, puisque l'actuelle statue de Nicolas d'Este est en fait une reproduction du XXe siècle. Après que les armées françaises de Napoléon ont fondu l'original de Baroncelli en 1796. Tout comme, me semble-t-il, il conviendrait d'ajouter à cette petite liste le projet bien avancé auquel Léonard de Vinci travailla entre 1482 et 1493 pour la statue équestre commandée par Ludovic de Mort. Et naturellement, je reviendrai sur ce projet de statue. Alors, ces trois ou quatre statues équestres soulèvent ex abrupto, je dirais, un nombre de questions qui relèvent de plusieurs champs. Donc, quelle est la place dans l'Italie du XVe siècle de la statue équestre de bronze par rapport, par exemple, à l'œuvre peinte? Et à l'intérieur même de la statuaire, quelles sont les autres statues équestres, de marbre ou de bois, que l'on trouve à la Renaissance? D'un point de vue esthétique, que peut-on dire des chevaux de ces statues? Et que peut-on dire d'un point de vue technique de leur réalisation? Enfin, mais cette dernière interrogation est à la fois l'origine et l'aboutissement même de la réalisation de ces statues, qui en sont les commanditaires et pourquoi choisissent-ils un objet artistique finalement marginal comme la statue équestre monumentale? Ouvrez, on l'imagine, les réponses, somme toute factuelles, des premières de ces interrogations construisent pour partie celles plus symboliques, pour ne pas dire politiques, des dernières. Alors, pour mieux mesurer le rôle spécifique de nos quatre statues de bronze du XVe siècle, en incluant à ce stade de notre réflexion donc le projet de Léonard, sans doute faut-il rappeler que la statue équestre de Nicolas d'Este est en 1451 la première statue de bronze que l'on ait fondue depuis l'Antiquité romaine. Il s'agit donc bien là, étymologiquement, d'une renaissance. Pour aller à l'essentiel, je rappellerai que la statue équestre monumentale de marbre fait son apparition dans la Grèce antique, d'abord en l'honneur des vainqueurs des Jeux olympiques. À l'époque de l'hégémonie macédonienne, cette dimension honorifique devient l'apanage des chefs de guerre et des rois. Il faut dire que la cavalerie d'Alexandre a joué un rôle déterminant dans les victoires de Philippe de Macédoine et que son cheval, Bucéphale, mythique descendant des juments de Diomède, comme le rapporte Plutarque, est étroitement associé aux exploits de son maître. Le monument équestre devient donc un signe de la noblesse de son cavalier et il est peu à peu érigé en l'honneur des personnages importants de la cité, hommes de guerre mais aussi hommes de loi. À leur arrivée en Grèce, les Romains mesurent très tôt l'enjeu politique symbolique des monuments équestres et, par exemple, le consul Paul Émile fait ériger une statue équestre qui le représente sur un pilier qui était initialement destiné à recevoir la statue équestre de Persée, le dernier roi de Macédonie, qu'il avait vaincu à la bataille de Pydna. Hein, donc, d'une certaine façon, sa victoire lui permet de profiter du pilier de Persée. Très vite, donc, la statue équestre témoigne de la grandeur et de la noblesse de son sujet et devient la forme la plus élevée de célébration du pouvoir. La statue de Marc Aurèle est l'unique monument équestre de bronze qui nous soit parvenu de l'époque romaine, sans doute parce qu'on crut longtemps qu'il s'agissait du premier empereur chrétien Constantin et qu'elle échappa pour cela à la destruction des idoles païennes. On ne connaît de même que fort peu de statues équestres de bronze médiévales. La seule du Moyen-Âge est celle de Pavie du Regisole, détruite par les Jacobins padouans, elle aussi en 1796, car le nom même de la statue semblait célébrer un monarque, dont en fait on ignorait même l'identité, hein, mais bon. Et il ne reste qu'une reproduction qui date, comme pour la statue de Nicolas d'Este du XXe siècle, mais on voit que la statue de ce Francesco Messina n'est pas une imitation de l'original. Si on revient un petit peu en arrière, on voit bien, là, d'après ce dessin de Courletti, qu'il y avait un petit chien qui servait d'appui à la patte levée du cheval, hein, et que le cavalier, s'il avait son bras tendu, ne semblait guère, comme dans la statue de Messina de 37, faire un signe proche de celui des fascistes italiens. Hein. Bon. La statue médiévale du Regisole est une œuvre anonyme dont on ignore même le sujet, la date d'érection. Elle n'en est pas moins le symbole de la ville de Pavie, hein, encore aujourd'hui, que ne manque pas par exemple de mentionner Pétrarque lorsqu'il passe en ville dans une lettre qu'il écrit à Boccace. Voici ce qu'il lui écrit. « En outre, tu aurais vu quelque chose dont tu es très friand et moi-même peut-être trop, une statue équestre de bronze recouverte d'or, au milieu du forum, qui semble gravir à vive allure le sommet d'une colline, et nul parmi les spécialistes de cet art et de la peinture ne la relègue au second rang. » Bon, alors, il est assez évident de voir que nos trois statues de bronze sont très proches du modèle romain de Marc Aurèle, qui lui-même a nettement déjà influencé celle du Regisole. Hein. On aura pu constater par exemple que le cavalier ne tient la bride que d'une main dans toutes ses statues, en général la gauche, tandis que la droite, tendue par Marc Aurèle et le Regisole, empoigne généralement un objet, une épée ou un bâton de commandement. Le cheval est au pas, avec une seule patte levée, la droite dans la statue romaine mais la gauche dans celle du Regisole et nos trois statues renaissantes. Du côté, justement, où la main du cavalier tire la tête et symétriquement à celle qu'il lève lui-même, ce qui confère au couple une sorte d'harmonie élégante. Naturellement, Marc Aurèle n'a pas d'étrier, puisque les étriers n'apparaissent en Occident qu'à partir du 8e siècle. En revanche, ils font partie du harnachement, du cheval, des autres statues postérieures. L'absence d'étrier explique que les antiques aimaient les chevaux que l'on appelle ouvert de devant, hein, c'est-à-dire un poitrail large qui garantit des aplombs corrects. Le garrot devait être élevé afin de fournir au cavalier une assiette plus sûre. L'absence d'étrier était compensée par ce que l'on appelle un dos encellé, hein, en fait un dos comme s'il avait lui-même une selle, hein, plus confortable. Et pour cette même raison, dans l'Antiquité, on préférait des chevaux aux côtes plutôt profondes et renflées de l'estomac, un rein large et court, une croupe et des hanches larges, en harmonie avec le poitrail. Les anciens, par ailleurs, prônent une tête plutôt petite, mais sans excès, des yeux grands, le plus possible saillants et brillants à voir, une encolure souple et légère qui rendent le cheval mobile et équilibré. Par souci esthétique, mais plus encore parce que le cavalier, qui justement n'a pas d'étrier dans l'Antiquité, doit souvent s'y accrocher, particulièrement dans les exercices violents, on apprécie les chevaux dont l'encolure s'orne d'une crinière épaisse qui retombe à chaque mouvement sur l'épaule droite. Toutes ces caractéristiques sont présentes dans le cheval du monument équestre de Marc Aurèle et en large partie dans les statues postérieures, alors même que les étriers les rendaient moins nécessaires. Donc il y a bien une imitation des sculpteurs de la Renaissance qui trouve dans la statue de Marc Aurèle un modèle, un canon esthétique. De fait, ces caractéristiques sont par exemple absentes de l'autre grande tradition de la statuaire, qui est le monument équestre funéraire, souvent de pierre ou de marbre, de bois ou de plâtre. Limitées en taille, beaucoup plus fragiles que le bronze, ces statues visent à représenter le défunt au sommet de sa forme physique et de son pouvoir. Alors, la plus célèbre de ces statues est celle du cavalier de Bamberg, nom générique pour désigner un sujet inconnu, accolé au pilier nord du chœur oriental de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Georges à Bamberg en Allemagne, représentant, bon, peut-être, d'après ce que j'ai lu, Étienne Ier de Hongrie, daté environ du XIIIe siècle. Il existe en réalité un grand nombre de ce type de statues funéraires de tailles très diverses, comme celle de Can Grande della Scala, ami et protecteur de Dante, à Vérone, célèbre pour le sourire bienheureux, très satisfait de lui, ou comme celle de son neveu et successeur Mastino II della Scala, puis de Can Signorio della Scala, qu'il a fait sculpter de son vivant, donc par Bonino da Campione, auteur par ailleurs d'un monument funéraire de Barnabé Visconti. Hein. Vous voyez, donc il y a là toute une tradition de ces statues minérales. On pourrait multiplier les exemples pour montrer qu'il y a certainement une mode de ce type de statues équestres funéraires de marbre au XIVe siècle en Italie, et qu'il est assez évident qu'elles sont d'une conception artistique toute différente de nos statues de bronze. Certes, l'esthétique du cheval et l'harmonie du couple de Bamberg à Milan évoluent, mais la raideur des sujets, des chevaux en particulier, évidemment, il est assez difficile de sculpter une patte levée dans le marbre, distingue deux traditions artistiques. Pourtant, les hommes représentés demeurent des souverains puissants et surtout riches. Par exemple, on sait que Can Signorio déboursa 10 000 florins pour sa seule statue. Un peu comme l'était d'ailleurs en son temps Marc Aurèle. Comme lui, allure martiale, une allure martiale qui marque la puissance et la grandeur des chefs de guerre qui sont autant d'éléments de la statuaire de bronze. Car la présence du cheval, en réalité, hausse le sujet au-dessus du commun. La particularité des statues de bronze consiste donc plutôt en cela qu'elles sortent de l'espace religieux pour investir l'espace laïque, c'est-à-dire la place. Les fresques et la peinture, enfin, sont une sorte de transition entre la statue équestre funéraire du XIVe et les statues de bronze du XVe. On s'en convaincra aisément avec deux chefs-d'œuvre en la matière. La fresque en trompe-l'œil de Paolo Uccello, à la gloire du condottiere Giovanni Acuto, le fameux John Oakwood, un Anglais, à Florence, commandité par Côme l'Ancien de Médicis, justement à la place d'une statue équestre qu'il avait initialement prévue. Et son pendant, à quelques mètres de celle de Paolo Uccello, la fresque d'Andrea del Castagno, qui représente un autre grand capitaine, Niccolò da Tolentino, dont le corps est également enseveli dans la cathédrale. Le traitement de ces fresques est bel et bien un compromis entre la statuaire funéraire de marbre blanc et le dynamisme de la statuaire de bronze, en particulier avec cette patte antérieure du cheval levé et un mouvement général, en particulier ici chez Andrea del Castagno, 20 ans après Uccello, notamment, voyez, la tête du cheval tournée vers le spectateur. Uccello, on le sait, est un grand peintre du cheval, avec ses célèbres versions de la bataille de San Romano. Et ici, bon, il y en a trois versions, et ça c'est celle de la National Gallery, justement centrée sur notre Niccolò da Tolentino, ou encore son fameux Saint-Georges et le dragon, où les deux pattes antérieures levées du cheval sont symptomatiques d'un galop et marquent le moment le plus aigu de la bataille ou de l'attaque. La peinture du XVe siècle célèbre donc aussi ses puissants. Là encore, bon, les exemples sont nombreux et magnifiques. J'ai retenu le cortège des mages de Benozzo Gozzoli, centré sur la figure des Médicis et leurs montures majestueuses qui ont presque toutes, de manière, on dirait, caricaturale, la même patte droite ou gauche levée, hein, y compris les cavaliers du faux, si vous le voyez là-bas, hein, ce qui constitue finalement une figure imposée de l'iconographie équine et de la statuaire de bronze par ailleurs. On pourrait aussi bien citer ensuite Mantegna ou Pisanello. Bref, dans tous ces tableaux, les harnachements des chevaux sont somptueux et participent naturellement du luxe glorieux de la Renaissance italienne. Tout cela pour délimiter le champ particulier de la statue équestre de bronze dans le domaine florissant de l'art italien, parce qu'il en décrit au moins deux aspects originaux. La situation du monument dans l'espace urbain, la place publique, et le matériau choisi, noble et résistant, le bronze. Pour comprendre et interpréter ces statues, il faut rappeler ici que les figures de ces statues donc, sont celles de condottieri, qu'il s'agisse du Gattamelata ou de Colleoni, ou de seigneurs issus de la tradition militaire, c'est-à-dire Este ou Sforza. Rappelons que les condottieri apparaissent avec l'essor du monde marchand en Italie hein, et les rivalités communales qui en découlent, car dans le même temps que les villes italiennes de la fin du Moyen-Âge cherchent à étendre leur influence sur un territoire toujours plus grand, les marchands et les bourgeois, on le sait, ne sont guère enclins à défendre eux-mêmes leurs contades hein, et ont pour cela recours à des mercenaires avec lesquels on passe un contrat, la condotta. Cela attire en Italie un grand nombre de chefs militaires étrangers, que d'ailleurs au début les Italiens préfèrent parce qu'ils sont peu susceptibles d'essayer de s'approprier un État ou une ville, puisqu'ils sont étrangers. Mais la peste du milieu du XIVe siècle pousse certains nobles italiens qui n'ont plus de paysans, qui n'ont plus de récoltes et qui n'ont plus de revenus, à louer leurs services de soldats. Ainsi de grandes familles, Orsini, Colonna, Le Canne, D'Alverme, etc., fournissent près de trois quarts des condottieri du XVe siècle. Or, dans le même temps, ces chefs de guerre sont de vraies menaces pour les villes, y compris pour celles qui les emploient. Machiavel est à ce propos sans équivoque, qui écrit au début du siècle suivant que ces armes mercenarie et ausiliare sono inutile et pericolose. Il écrit dans le chapitre 12 du Prince. Je vous citais quelques passages parce que c'est important. On va voir pourquoi. Hein. Donc, quelques passages du chapitre 12 du Prince donc de Machiavel. Si quelqu'un tient son pouvoir fondé sur les armes mercenaires, il ne sera jamais solide ni sûr, car elles sont désunies, ambitieuses, sans discipline, déloyales, vaillantes au milieu des amis, lâches au milieu des ennemis. Sans crainte de Dieu, sans foi avec les hommes. Et l'on ne diffère sa chute que tant que l'on diffère l'assaut. Durant la paix, vous êtes désarmés par elle, durant la guerre, par les ennemis. Un peu plus loin, les capitaines mercenaires sont ou excellents dans les armes ou non. S'ils le sont, vous ne pouvez vous y fier, parce qu'ils aspireront toujours à leur propre grandeur, ou en vous opprimant, vous qui êtes leur maître, ou en opprimant d'autres contre votre intention. Si le capitaine mercenaire n'est pas valeureux, il vous ruine ordinairement. Et donc, dans Machiavel, comme il le fait souvent, hein, puise dans ce qu'on appelle les exemples modernes de condottieri. Alors, voici ce qu'il écrit. Le duc Filippo étant mort, les Milanais prirent à leur solde Francesco Sforza contre les Vénitiens. Ayant dominé les Vénitiens à Caravaggio, celui-ci se joignit à eux pour opprimer les Milanais, ses patrons. Sforza, son père, étant à la solde de la reine Jeanne de Naples, la laissa tout à coup sans armes, d'où elle fut contrainte de se jeter dans les bras du roi d'Aragon. Si les Vénitiens et les Florentins ont par le passé augmenté leur empire avec ce type d'armes, et si leurs capitaines ne s'en sont pas pour autant fait princes, mais les ont défendus, je réponds que les Florentins ont été en ce cas favorisés par le hasard. Car des capitaines valeureux qu'ils pouvaient craindre, les uns n'ont pas été victorieux, d'autres ont eu des oppositions, d'autres ont tourné ailleurs leur ambition. Celui qui ne fut pas victorieux fut Giovanni Haucut, le fameux John Haucut qu'on a vu tout à l'heure, dont, n'ayant pas été victorieux, on ne pouvait connaître la loyauté. Mais chacun avouera que s'il avait été victorieux, les Florentins étaient à sa discrétion. Les Vénitiens, au début de leur expansion en terre ferme, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de territoire et qu'ils étaient en grande réputation, n'avaient pas beaucoup à craindre de leur capitaine. Mais dès qu'ils s'agrandirent, ce qui advint sous Carmagnola, c'était un condottier, ils firent l'expérience de leur erreur. En effet, l'ayant vu très valeureux après qu'ils eurent battu sous son commandement le duc de Milan, et s'apercevant d'autre part qu'il était devenu tiède au combat, ils estimèrent qu'ils ne pouvaient plus vaincre avec lui et qu'ils ne pouvaient le licencier pour ne pas perdre ce qu'ils avaient acquis. Ainsi furent-ils contraints, pour s'assurer de lui, de le tuer. Ils ont eu ensuite pour capitaine Bartolomeo da Bergamo, c'est-à-dire le Colleoni, Ruberto da Sanseverino, le comte de Pitigliano et d'autres de leurs semblables. Bon, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 12, hein, mais on voit bien que le sujet tient au cœur de Machiavel, qui est partisan, on l'aura compris, de ne jamais recourir aux condottieri. Or, que remarque-t-on dans ces passages? Machiavel, avec son style toujours serré et apparemment précis et rigoureux, se garde bien de dire que, justement, les Vénitiens ont élevé une statue de bronze à Bartolomeo da Bergamo, preuve s'il en est qu'un État peut s'accorder avec son condottiere. Il préfère s'attarder sur le cas de Francesco da Bussone, le fameux Carmagnole, le véritable homme de main de Philippe-Marie Visconti, qui d'ailleurs lui avait fait épouser une de ses parentes pour le remercier de ses coups d'éclat militaires. Carmagnola passa pourtant du côté des Vénitiens en 1425 contre les Milanais, ce qui leur fit remporter de nombreuses victoires. Or, lorsque quelques années plus tard il se montra moins entreprenant et se mit à essuyer défaite sur défaite, les Vénitiens le jugèrent pour trahison et l'exécutèrent en 1432. Le silence de Machiavel sur la statue du Colleoni ou sur celle du Gattamelata est assez symptomatique, je crois, de cette démonstration péremptoire. Mais il est éloquent, car il trace une voie presque inattendue entre celle que décrit le secrétaire florentin. L'un des moyens de régler les conflits indéniables qui surgissent entre un État et son condottier, outre la solution machiavélienne de ne pas y recourir ou celle qui consiste à faire de temps en temps un exemple avec une exécution sommaire, pourrait donc bien être l'érection de nos statues de bronze qui montrent que l'on peut aussi glorifier un condottier fidèle et héroïque et inviter en somme ses successeurs à un engagement qui saura être récompensé. Alors, cette hypothèse nous conduit à mieux examiner l'histoire de ces statues, de leurs commandes, de leur érection. Là encore, avec donc deux cas distincts, d'une part Venise et ses condottiers, de l'autre la célébration d'un chef de guerre, je l'ai dit, d'un chef politique aussi, qu'il s'agisse de Nicolas d'Est ou du projet milanais de Léonard pour François Sforza. Dans le premier cas, il faut rappeler que les statues du Colleoni et du Gattamelata ne sont en rien financées par Venise. Pour ces monuments, il s'agit d'un financement privé. Dans le cas du Gattamelata, ce sont ses héritiers qui paient intégralement la statue. Quant au Colleoni, l'anecdote est célèbre. Hein, son testament annonçait qu'il léguait à la République des Doges son immense fortune de 500 000 florins. Pour vous donner une idée, le salaire annuel d'un condottier était d'environ 70 000 ducats. Donc lui, il lègue 500 000 ducats, hein, c'est donc l'équivalent de presque de 8 ans hein, de son salaire. Donc il était prêt à léguer à la République son immense fortune, en particulier pour lutter contre les Turcs, à condition qu'on lui élevât une statue de bronze, et son testament dit « Super Platea Sancti Marquis ». Le Sénat de Venise, s'il ne voulait pas laisser passer l'aubaine d'un tel héritage, n'était pas prêt d'ériger la statue sur la place la plus politique de la République, la place Saint-Marc. Aussi, une interprétation subtile des dernières volontés du condottier permit-elle de la placer en 1495 devant la Scuola Saint-Marc, hein, sur le Campo San Giovanni e Paolo, non sans avoir fait refaire le pavement de la place en l'honneur de la statue. Par la suite, on note toutefois que même cette érection, loin de la prestigieuse place Saint-Marc, semble troubler à ce point les usages de Venise, qu'en 1512, le Sénat décide de mettre dans la basilique même une autre statue la statue funéraire du condottiere Niccolò Orsini, le fameux comte de Pitigliano dont parle Machiavel, comme d'une certaine façon pour contrebalancer le monument somptueux du Colleoni et en réduire la portée symbolique. Le prince, je le rappelle, date de 1513. Machiavel ne mentionne pas davantage cet exemple de bonne relation entre un condottiere et l'État qu'il emploie. La basilique semble dès lors destinée à accueillir deux autres statues équestres funéraires, donc pas de bronze, hein, datées du début du XVIIe, celle de Orazio Baglioni et celle de Pompeo Giustiniani. En somme, on voit bien que notre statue de bronze du Colleoni a induit toute une politique de la représentation des chefs de guerre à Venise. Quant au Gatta Melata, ce terme de Gatta Melata, j'ouvre une parenthèse, ça veut dire la chatte mite. Ça aide pas beaucoup. Hein. Chatte mite est néanmoins un mot français, hein, qui veut dire la gentille chatte, le chat gentil, avec une idée de douceur et en même temps de perversion. Hein, c'est-à-dire, on est gentil avec l'idée de faire des choses peut-être mauvaises, comme on pourrait imaginer la fourberie d'un chat, d'une chatte, enfin bon. En tout cas, c'est ce que donne le dictionnaire, hein, moi je ne suis pas. Hein, bon. Donc, c'était le surnom de ce Gatta Melata, qui avait l'air doux, mais qui était quand même assez rusé. Donc, c'est une statue de Donatello, hein, financée par les héritiers du Gatta Melata, et que l'on ne peut comprendre que dans la lecture de la situation politique italienne. Car le condottiere était un ami intime de Comte de Médicis. Je rappelle que Comte de Médicis avait été exilé à Venise jusqu'en 1434, avant d'être rappelé dans la cité d'Ulysse, donc Florence. Et donc Comte avait consenti à ce que Donatello partent tout le temps de l'exécution de cette statue, entre 1447 et 1453, hein, c'est une longue période, et c'était une sorte d'acte éminemment politique, hein, une manière de saluer son ami et de saluer la République qu'il avait accueillie en exil. Alors, si on regarde maintenant les statues de Nicolas d'Este et le projet de la statue de Sforza, ici, on est dans deux cas radicalement différents, puisque le projet et le financement du projet sont des projets d'État, si vous voulez. Dans ce cas, ce sont les États qui se proposent de financer ces statues. Alors, pour Ferrare, on trouve dès 1433 une délibération des Savi, des sages de Ferrare, pour un premier paiement. Les Estes, je le rappelle, sont l'une des plus anciennes et des plus illustres familles d'Italie, qui se distinguent dès le Xe siècle. Ils gouvernent régulièrement la ville dès le XIIIe siècle. Alors, Nicolas III avait donc succédé légitimement à son père, le marquis Albert V. C'était un vaillant chef de guerre. Il avait considérablement étendu le comtado de Ferrare, et sa puissance est reconnue dans toute la péninsule. Au point, je le rappelle, que le pape Eugène IV choisit Ferrare au début pour faire son concile, hein, qui ensuite sera transporté à Florence. Nicolas eut une vie matrimoniale un peu tumultueuse. Vous allez voir que ça compte, hein, je ne vous raconte pas ça pour passer le temps. Eut une vie matrimoniale un peu tumultueuse, notamment avec 3 épouses et 11 bâtards. Alors, l'un de ces bâtards, Lionel, fils de sa maîtresse adorée Stella des Ptolomei, est celui qu'il désigne pour son successeur à sa mort, parce que son fils aîné légitime, Hercule, n'a alors que 10 ans. Et donc, Lionel a une part très active dans l'érection de la statue de son père. C'est lui qui en est le promoteur. Et lorsque, par exemple, les Savi hésitent à trancher entre deux sculpteurs florentins, je l'ai dit, Antonio di Cristoforo et Niccolò Baroncelli, c'est lui qui sollicite l'avis de Léon Battista Alberti. Léon Battista Alberti qui compose à cette occasion un petit traité qui s'intitule le De Equo Animante, donc on pourrait traduire par du cheval vivant, du cheval animé, qu'il dédie à ce même Lionel d'Este. Et c'est justement sur le conseil de Léon Baptiste Alberti que Lionel décide qu'il retiendra les deux compétiteurs pour faire de la statue, hein, l'un s'occupant du cheval et l'autre du cavalier. Or, il est assez évident que l'intérêt de Lionel pour la statue équestre de son père sert avant tout à légitimer une succession qui est forcément problématique, puisque c'est un fils bâtard, hein, si vous voulez, de Nicolas III. Quand bien même, son père a réussi à le faire reconnaître par le pape en 1429. Donc, tout indique que Lionel a conscience que sa succession sera délicate, et en célébrant la figure paternelle de Nicolas III, Lionel coupe court aux critiques. Lorsqu'il meurt en 1450, la statue n'est pas achevée, et c'est son frère cadet, donc lui-même un bâtard de Nicolas III, qui lui succède et qui, évidemment, marche, si j'ose dire, dans ses pas en la matière. Il accélère la réalisation du projet, qui est d'autant plus urgente que pour lui, il n'a pas été désigné par son père, hein, ce qui est encore plus urgent, donc d'affirmer cette hérédité. En fait, entre-temps, son frère aîné Lionel s'était marié, avait eu un fils, et c'est ce fils-là qui, d'une certaine manière, aurait dû être l'héritier de son père. On voit donc que Borso d'Este tente et réussit un coup d'État, hein, et que l'érection de la statue est pour lui l'occasion de célébrer en grande pompe et son père et sa propre investiture. L'histoire du projet de la statue de François Sforza à Milan est à peu près la même, hein, c'est-à-dire que Galeas Marie Sforza, qui était le fils aîné et l'héritier de François, est assassiné en 1476. Il a un fils, Jean Galeas, qui n'a que 7 ans. Donc c'est son oncle Ludovic le Mort qui s'empare du pouvoir. Le Jean Galeas meurt un peu brutalement, hein. Donc il semble que le projet de la statue équestre soit pour François Sforza justement l'idée, hein, d'appliquer tout son soin à s'inscrire dans un héritage qu'en réalité il a complètement usurpé. Alors on a, et j'en arrive à notre Léonard, on a dans le Codex Atlanticus, qui se retrouve à la bibliothèque ambrosienne de Milan, une lettre datée de 1482 que Léonard écrit à Ludovic le Mort. Dans cette lettre, Léonard, qui est alors peu satisfait, semble-t-il, de peindre son adoration des mages dans le couvent de San Donato, près de Florence, présente au Mort une sorte de décalogue de ses aptitudes d'ingénieur militaire et s'offre de lui découvrir « i secreti mei », hein, c'est-à-dire « mes secrets ». Pont, siège, bombarde, armes navales, chars cuirassés, ici. En somme, « varie et infinite cose da offendere et difendere ». Vous voyez, là, ce sont des images là, que l'on trouve sur le Codex Atlanticus. Regardez la taille de l'arbalète, on voit un homme ici qui l'arme. Hein, ce sont des projets absolument gigantesques. Et cette lettre qu'il écrit en 1482 se termine de la manière suivante. « En temps de paix, je crois fort bien pouvoir vous satisfaire aussi bien que quiconque en matière d'architecture, de réalisation d'édifices et publics et privés, et dans l'art de conduire l'eau d'un lieu à l'autre. De même, de faire une sculpture de marbre, de bronze et de terre. Et encore en peinture, ce que l'on peut faire pour soutenir toute comparaison de qui vous voudrez. On pourra en outre mettre en œuvre le cheval de bronze, qui sera la gloire immortelle et l'honneur éternel de l'heureuse mémoire de votre père et de l'illustre maison des Sforza. Et si quelqu'une des susdites choses paraissait à certains impossible et infaisable, je me déclare tout à fait prêt à en faire la démonstration dans votre parc ou dans le lieu qu'il plaira à votre excellence, à laquelle je m'en remets aussi humblement que possible, etc. » Donc on voit bien que les guerres d'Italie sont au cœur de l'histoire de nos statues de bronze, même si la lettre de Léonard est clairement une réponse au désir de Ludovic de trouver un artiste à même de réaliser le projet grandiose à la gloire de son père. L'offre de Léonard est d'autant mieux accueillie par Ludovic le Mort qu'en réalité, Léonard est déjà, entre-temps, arrivé à Milan. Alors, on connaît deux versions du projet de Léonard. Dans une première esquisse, Léonard a décidé de ne pas suivre du tout la longue tradition des statues équestres de bronze depuis Marc Aurèle jusqu'au Colleoni et de concevoir un monument très dynamique, très puissant. Or, il semble que le projet se heurte aux possibilités techniques de sa réalisation. Car si l'on ignore où en est alors Léonard de sa statue, on dispose d'une lettre de l'ambassadeur de Florence à Milan, Pietro Alamanni, qui écrit en 1489 à Laurent de Médicis, justement à la demande de Ludovic Sforza, pour le prier de lui envoyer un ou deux maîtres capable de couler la statue d'un grand cheval de bronze à la gloire de François Sforza, car, dit Alamanni, le mort doute que Léonard y parvienne. Et l'on trouve en effet, sur un folio du manuscrit C de Léonard, la mention suivante, « En ce jour du 23 avril 1490, je commence ce livre et je recommence le cheval. » En effet, face à cet échec, Léonard se lance dans un nouveau projet qui repose sur toute une série d'études sur l'anatomie des chevaux, pour arriver à un modèle certes plus statique et semblable aux statues de bronze que l'on connaît, mais d'une dimension véritablement prodigieuse. Donc, Léonard envisage une statue de 7 mètres, 7 mètres de haut, peut-être pour être disposé sur l'immense place que projette Ludovic devant le castel. Les annotations du manuscrit de Madrid et de Windsor montrent que la dimension extraordinaire du cheval le met face à de sérieuses difficultés techniques. Léonard, je le rappelle, a été l'élève de Verrocchio, celui qui a fait la statue du Colleoni, et il connaît la technique ancestrale de la fusion à cire perdue. Alors, c'est une technique inadéquate pour un projet comme le sien d'environ 70 tonnes de bronze. Hein, c'est beaucoup trop lourd, qui nécessite donc un procédé plus sophistiqué pour alléger au maximum le poids de la statue. Léonard doit appliquer une technique connue mais nouvelle au XVe siècle, celle qu'on appelle la fusion à jet. En fait, la fusion à jet, on part d'un modèle en taille réelle en argile, qui doit être donc la copie conforme du sujet de bronze. Le modèle, on le sait, est prêt en 1493, lorsque l'on célèbre les noces de Blanche-Marie, la sœur de Ludovic, avec Maximilien de Habsbourg. Donc Léonard travaille à couler son modèle en un seul jet, à l'exception de la queue, écrit-il, ce qui nécessite un moule complexe. Et on a plusieurs dessins de moules. Je rappelle, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, ou peut-être les plus jeunes qui l'ignorent, que Léonard écrit dans un miroir, tout est écrit à l'envers. Il faut lire le texte avec un miroir. Il faisait ça d'abord parce qu'il était gaucher et ensuite pour cacher un peu ses secrets. Pourquoi cherche-t-il à mouler ce sujet en un seul jet au lieu de faire des morceaux qu'il pourrait souder, coller? Parce que c'est une technique qu'il juge plus prestigieuse, et donc le collage de morceaux. Mais le problème de la fusion à jet, c'est qu'elle nécessite une température du bronze qui soit absolument constante tout au long de l'opération, ce qui est très difficile lorsqu'il s'agit de travailler 70 tonnes de bronze. Il faut par ailleurs que les pattes du cheval soient pleines et que le corps soit creux, sinon la statue ne tient pas, elle est trop lourde. Et dans le manuscrit de Madrid, on note de la main de Léonard, « En ce jour du 20 décembre 1493, je conclus qu'il faut couler le cheval sans sa queue et à plat ». Touche-t-il au but, puisque la lettre de 1493, touche-t-il au but lorsqu'en 1494, Charles VIII décide de se lancer à la conquête du trône de Naples et que commencent les guerres d'Italie? Le bronze prévu pour la statue est soudainement employé pour fondre des canons et les finances de Ludovic le Mort ne lui permettront plus de procurer une telle quantité de métal à l'artiste. La victoire définitive de Louis XII à Milan en 1499 et la fuite du Mort marquent la fin du projet colossal de Léonard, dont il existe toutefois une réalisation contemporaine. Louis XII a nommé comme gouverneur de Milan Gian Giacomo Trivulzio, que les Français appellent Trivulse. Alors, Léonard, à ce moment-là, préfère fuir Milan et se réfugier à Venise. Trivulse est un redoutable condottier qui sera indispensable à Charles VIII puis à Louis XII, qui le nomme maréchal de France. Trivulse mérite son titre. Il est l'artisan de la victoire des Vénitiens à Agnadel en 1509 et de celle de Marignan en 1515. Léonard, de son côté, pour lui, doit faire face à plusieurs années de pérégrination, Venise, Florence, Mantoue, Venise encore, Rome, Florence, et toujours presque comme un ingénieur, dirait-on, une sorte de génial inventeur. Il faut attendre 1504 pour le retrouver à Milan. Alors, ce bref rappel des pérégrinations de Léonard pourrait sembler une digression, mais en fait, ce retour à Milan est à rapprocher et son rapprochement, désormais avec le roi de France, ont fait germer, croit-on, un ultime projet de statue équestre de bronze. En général, la critique suppose qu'elle est justement une commande de 1511 de ce fameux condottier Trivulse, au sommet de sa gloire. Des projets des années 1516-1518 qui reprennent, on le voit, le projet initial de la statue de Sforza, c'est-à-dire avec un cheval cabré, un cavalier en action. Mais Trivulse meurt en 1518, d'ailleurs en disgrâce de François Ier et son projet avec lui. L'épisode est pourtant significatif de l'importance à la fois artistique et politique des statues équestres de bronze. D'abord, elle nécessite des artistes exceptionnels pour des situations elles-mêmes extraordinaires. Leur nombre est tout à fait modeste, puisqu'il n'en reste que deux du XVe siècle, et quatre, si l'on compte celle de Nicolas III qui a disparu, et le projet avorté de Léonard pour Sforza. Cinq, si l'on veut bien inclure l'ébauche de la statue de Trivulse. Mais ce petit nombre me semble-t-il extrêmement significatif, car il montre d'une part que la difficulté technique que requiert un tel monument non seulement réduit le nombre de sculpteurs à même de l'entreprendre, mais produit aussi du même coup une émulation de l'excellence en la matière. C'est là l'unique interprétation raisonnable à l'acharnement de Léonard à vouloir coûte que coûte entrer dans le cénacle restreint des sculpteurs de statues équestres de bronze. Son échec, ou plutôt ses échecs, en l'occurrence, sont essentiellement le fruit de son ambition de dépasser ses prédécesseurs avec des sujets compliqués qui défient alors l'imagination commune, soit un cheval qui se cabre, soit un gigantisme exubérant. Les prouesses techniques qu'exige un tel monument équestre induisent un coût exorbitant, lié tant à la durée de tel projet, plusieurs années, durant laquelle parfois il faut payer l'artiste, qu'au choix même du matériau particulièrement prisé. Car ni le bois, ni le marbre, ni la pierre ne sont utiles en temps de guerre autant que ne l'est le bronze. Car c'est avec le bronze, et seulement avec lui, qu'on peut fondre les canons. Il serait excessif de tirer des remarques, sûrement pertinentes à partir de quatre ou cinq statues, mais si l'on place d'un côté le monument des condottiers, Gattamelata e Colleoni, et de l'autre ceux des hommes politiques, eussent-ils laissé aussi évidemment des chefs de guerre comme Nicolas III et Francesco Sforza, par un insolent coup du sort, n'ont survécu aux aléas de l'histoire que les deux premières. On pourrait voir dans cette lutte pour le bronze la métaphore d'un combat que se livrent l'art et la guerre, une tentative du premier de s'emparer et du nerf, c'est-à-dire l'argent, et de cette moelle épinière qui en souderait le squelette, c'est-à-dire le bronze, faite par la seconde. Alors, je crois, on mesurerait dans l'Italie du XVe siècle, déchirée par une infinité de guerres intestines, bientôt dévastée à partir de 1494 par les très longues et très célèbres guerres d'Italie, toute la puissance de la guerre contre l'art. Voilà. vous remercie.